saine cause, du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Duny.
Bonjour. Eh bien, après cette première approche, je continue. Hein, on va faire de, ça fera une deuxième émission sur quel monde d'après, quelle nouvelle société, quel éco-socialisme, quelle société vivable pour faire face à ce que je disais dans la première, c'est-à-dire l'homme désincarné, le corps fabriqué, comment retarder la fin du monde. Comment ne pas perdre complètement la terre, comment ne plus se mentir, faut-il faire sauter Bruxelles, comme dit François Ruffin, ou comme disent Noam Chomsky, c'est la lutte ou la chute, les copains, les amis, les auditeurs, ou comme dit Castoriadis, Cornelius, hein, la culture de l'égoïsme, si on n'en sort pas, on est mort, en plus de tout le reste, hein, et... trop tard pour être pessimiste, dit Daniel Tanuro. Hein. Voilà. Et les frères, Sève et compagnie de marxistes ont sorti quelque chose de très intéressant sur la catastrophe anthropologique. Sortir de la catastrophe anthropologique. Hein. Moi, ça, j'en reparlerai dans une prochaine émission. Vous voyez, il nous faut lire beaucoup, il faut se renseigner et se bouger. Et c'est la condition pour qu'on s'en sorte. Et tout repli sur soi qu'encourage fortement la société nous conduit à notre perte beaucoup plus rapidement. Hein. Je terminerai en citant Brecht. Hein. Celui qui lutte a souvent perdu, c'est mon cas. Hein. Nous avons lutté, mes amis et moi, pendant 50, 60 ans, avons gagné 5-6 fois, avons perdu 60 fois. Mais celui qui ne lutte pas, ou celle qui ne lutte pas, a déjà perdu. Au revoir.
Il y a des propositions hein, qui vont dans ce sens-là. Bon, j'en ai un là sous les yeux. Voilà, le groupe parlementaire d'opposition, communiste et France Insoumise, qui dit, voilà, il faut... que la règle verte soit le préalable à toute politique. Bon, ben, très bien, la règle verte, c'est-à-dire on ne prend pas plus à la nature qu'elle ne peut renouveler ou produire. D'accord, mais attention, ça doit se décliner partout, ça, y compris au plan local. La garantie de la souveraineté du peuple français. Bon, ça, je voudrais bien voir dans le détail. Est-ce qu'il y a une garantie du peuple français dans les communes de la Chartreuse ou de l'avant-pays savoyard? Est-ce que quand vous avez une municipalité comme la mienne élue avec 15% des inscrits, où le maire vient chez vous vous menacer en disant « si vous mettez des tracts aux boîtes aux lettres, je vous préviens, je vous poursuivrai », c'est hallucinant ce qui se passe. Est-ce que c'est ce genre de démocratie-là et de souveraineté-là qu'on va seulement déléguer ou est-ce qu'on va essayer d'aller vers un système où des assemblées générales populaires par localité forment comme une sorte d'assemblée législative et que le conseil municipal applique les volontés, ne serait-ce que par un référendum d'initiative communale, un RIC. Il y a 1000 façons concrètes d'imposer aux élus locaux des contre-pouvoirs leur permettant de faire les politiques que les gens veulent. C'est bien 4 manifestations de 300 personnes qui ont permis qu'on crée 3, la SNCF et la région, recréent 3 nouveaux trains entre Lyon et Chambéry. Voilà, 3 nouveaux trains hein, sur les 12. Bon, c'est pas la révolution. Alors, vous voyez ce qu'il faudrait faire pour arriver à... Donc, on peut imposer pacifiquement d'autres politiques. Donc voilà ce qu'ils disent, il faut une action globale, concertée et transparente de l'État, donc par la planification. Bah oui, ça c'est très bien, mais il faut que ce soit discuté, et qu'éventuellement il y ait un référendum. Ils disent que l'objectif 100% renouvelable à l'horizon 2050, avec zéro émission de carbone, ou que les émissions soient compensées, ben, je pense qu'on pourrait peut-être faire ça, bien sûr, avec la rénovation énergétique des bâtiments, mais il y a 32 millions de bâtiments, et il y en a 7 millions, c'est des passoires. Il va en falloir du pognon là-dessus. Hein. Le passage d'un tourisme prédateur à un tourisme écolo. Ben, parlons-en, les copains. Le lac vous plaît sans doute, hein, le lac d'Aigbelette.
Eh bien, le lac d'Aigbelette, maintenant, les entrées, c'est 3 euros. Jusqu'à 7 heures du soir. Il n'y a pas une plage gratuite. C'est un apartheid social à bobo, le lac d'Aigbelette. Que font nos élus ? Ils réservent le lac d'Aigbelette aux riches qui viennent dans le coin. Vous avez un truc là qui a été mis pour empêcher camping-car de se garer au bord du lac. Très bien, les bagnoles au bord du lac, très bien. Là où les petits jeunes allaient se baigner gratos. Mais, donc on peut plus. On met des PV aux gens qui se garent sur le bas-côté. Mais au fond, quand vous regardez bien, tout ça, était-ce réellement pour faire une protection du lac qui aurait très bien pu être faite en mettant des plots en bois, empêchant tous ces bagnoles de se foutre au bord du lac, surtout les camping-cars, hein, qui balancent leurs saloperies. Avec mon fils, on avait un fourgon, on a été témoin de trucs absolument hallucinants avec les camping-cars. Hein. On pouvait très bien le faire à petits frais, pas pour 800 000 euros. Or, ces 800 000 euros, ben, c'est interdit les berges du lac gratos à plein de petits jeunes qui veulent se baigner. Voilà à quoi ça aboutit. Donc, les gars, si vous voulez vous baigner, vous payez vos 3 euros. Si vous êtes 5 ou 6, ça fait 18 euros. Si vous êtes une famille, ça fait 12 euros. Et en plus de ça, on vous propose des cacahuètes, des machins, des trucs, de la fritaille. C'est devenu une horreur de Côte d'Azur. Je vais pas raconter les plages que j'ai fréquentées récemment, mais moi, ça me troue l'arrière-train. Donc, ok, pour un tourisme écolo, voilà. Donc, moi, j'envisage, entre autres touristes, de faire visiter mon jardin. Voilà, voilà comment ça évolue en jardin-forêt ou en jardin-verger, en permaculture, en 3 ans, 4 ans. Voilà, comment ça marche avec la pompe à eau, comment ça marche avec... les plantes les plus résistantes à la sécheresse, comment on fait, voilà, on aura peut-être une petite réunion de notre association dans ce terrain-là, comme base de compréhension de ce qui se passe dans la nature et de base de compréhension de qu'est-ce qu'on peut faire pour se nourrir, non pas en individuel, hein, pour l'histoire de me nourrir, c'est l'histoire de contribuer à faire réfléchir en termes d'éducation populaire et peut-être d'associer les enfants des écoles à cela. Le gouvernement prévoit 15 000 embauches dans l'hôpital public, alors que toutes les revendications des représentants, c'est 60 000. Donc, il n'y a pas de volonté du gouvernement, là, ils ont parfaitement raison. Et le parlementaire, la création d'un pôle public du médicament, ben alors là, fondamentalement d'accord. Il y en a marre de nos Serviers, de nos multinationales médicaments qui ont fait que des catastrophes. Hein, Sanofi, Servier, si on pouvait les nationaliser et les faire servir à un pôle public du médicament, tout l'argent entrerait dans les caisses de l'État. Donc au lieu de 8 milliards dans les caisses du privé, ben, il se ferait 8 milliards dans les caisses de l'État. Vous savez, avec 8 milliards, vous en faites des serres. Vous en faites des luttes contre la pandémie ou des masques gratuits. Des masques gratuits, car il faut des masques gratuits dans les écoles. Les parents, ils vont pas dépenser 40, 60 ou 100 ou 140 euros, ça dépend les évaluations, hein, ça va de 40 à 140 euros par mois pour un enfant, pour renouveler deux fois, trois fois par jour son masque, son petit masque, parce que s'il le garde trop longtemps, ça sert plus à rien. Déjà qu'un masque, en gros, ça sert juste à éviter de projeter sur les autres, hein, c'est déjà bien. Mais voilà, il faut quand même le renouveler deux, trois fois par jour. Eh bien, puisque c'est obligatoire, eh bien, ça doit être payé par l'État. Et que l'État prenne sur les riches, puisque l'État donne 300 milliards par an aux sociétés privées en France. 300 milliards par an, franchement. Ça, je l'ai déjà détaillé, je vais le redétailler dans une prochaine émission, parce que les gens ont du mal à comprendre qu'il n'y a pas que les 80 milliards d'évasion fiscale. Tout le monde nous rabat les oreilles, 80 milliards d'évasion fiscale. Non, quand vous regardez toutes les aides, le CICE, les exonérations de charges, les exonérations sur les carburants des sociétés, ceci, cela, quand vous faites le total, c'est minimum 300 milliards d'aides de l'État. Le capitalisme n'aurait jamais existé sans l'État américain, sans l'État anglais, sans l'État français qui lui a donné les moyens de se développer envers et contre tous. Enfin, presque contre tous. Qu'aurait été la bagnole si l'État n'avait pas financé les infrastructures routières ? Une bagnole sur des terrains accidentés, c'est pas la peine, ça aurait jamais existé, hein, sur des routes caillouteuses non plus. Voilà, l'État a financé de quoi faire des autoroutes au départ, Puis ensuite, il les a filés à des sociétés privées, hein, vous savez bien laquelle, et qui maintenant se gavent hein, d'un taux de croissance de 5-6% par an sans rien faire. Il suffit simplement de ramasser la monnaie au péage. Donc voilà comment ça marche. Des propositions donc sont très intéressantes. Vous voyez que si on voulait vraiment se bouger, réclamer par exemple un RIC pour un vrai pôle de santé publique ou un vrai création de 60 000 postes de soignants, on le pourrait, un RIC demandant que on taxe le GAFAM. Vous n'avez pas vu que l'Europe a négocié avec, j'en suis absolument écœuré, j'ai encore un peu d'indignation malgré mon âge, a négocié avec la multinationale Apple, dont la capitalisation vient de dépasser le PIB de la France. Une seule multinationale, une seule entreprise plus riche que toute la France. Eh bien, cette multinationale a négocié avec l'Europe, ou l'Europe a négocié avec elle, elle lui fait payer juste 150 millions pour les 8 années, 9 années, où domiciliée en Irlande, elle n'a pas payé d'impôts, ou presque pas. Elle a payé 1 million ou 2, alors qu'elle a 2000 milliards d'actifs. Hallucinant. Donc vous voyez, la joie de comprendre nous permet de nous indigner. Voilà ce qu'il faudrait rajouter à la citation d'Einstein. Bon alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on fait tout à fait autre chose. Il faut qu'on sorte de ce système. Donc dans un temps immédiat, on peut avec un peu d'argent public, municipal, faire des choses au niveau des communes. Ça s'appelle le communalisme. Avec le communalisme, on peut créer des emplois sans croissance. Alors, comment? Ben, créer des emplois sans croissance, c'est des quantités produites, mais par la croissance de la qualité des choses produites. Un kilo de tomates bio, c'est 100 fois moins, si c'est fait comme il faut, ou disons 40 fois plus de nutriments qu'une tomate industrielle. Eh bien ça, ça va faire de la santé pour les gens. Donc, on fait dans la qualité et de vie, et dans la durée des produits, et dans la réparabilité, dans la durabilité des produits. Voilà, et on arrête avec l'industrie de masse, il n'y en a pas plus besoin de l'industrie de masse, du ciment il y en a eu assez, de l'acier il y en a assez, on peut le récupérer, il y a des montagnes, des millions de tonnes d'acier qui dorment, qui rouillent partout, c'est pas la peine de rêver d'un nouvel industrialisme. Là. Moi je vois des fois un peu des syndicalistes qui s'énervent en disant « faut relocaliser l'industrie, il faut réindustrialiser la France ». Et ragnagna, mais non, il ne faut pas réindustrialiser la France. Est-ce qu'inter la France, l'industrie, si vous voulez? Le poids de l'industrie actuellement en France, c'est 10% du PIB. Puis on sert grossièrement de cet indicateur. 81%, c'est des services. Voilà. Donc la déindustrialisation, elle est massive en France. Eh bien, c'est pareil partout. Les États-Unis, c'est pareil. L'industrie, c'est 10%. En Allemagne, un petit peu plus, 12%. Voilà. Les emplois industriels, on a perdu 2 200 000. Mais c'est pas seulement ceux qui sont partis vers la Chine par délocalisation. Ça représente 15% des 2,2 millions. C'est-à-dire, bon, disons 400 000, 500 000. Mais l'essentiel, c'est que il y a eu le développement de l'intensification du travail dont je parlais tout à l'heure. Il y a eu la concurrence avec les pays à bas coût comme la Chine ou comme le Brésil. Il y a eu la financiarisation des entreprises. Voilà ce qui fait la désindustrialisation. Et puis surtout, il y a que nous consommons de moins en moins d'autos, de meubles, d'habits, d'électroménagers. Ça a baissé de 22% de nos dépenses en 1960 à 12% en 2017. Même pas 10% aujourd'hui. Donc ça va, on est suréquipé. Ah, il y en a assez de l'industrialisation. Donc, inutile de dire on va relocaliser, on va pas remettre des fourneaux, des mines, des usines qui puent, qui polluent. En France, il y a assez. Par contre, on a besoin de services publics. On a besoin du train de l'avant-pays savoyard. On a besoin de refaire un tramway entre Saint-Égrève et Saint-Béron. On a besoin de soigner des tas de gens qui sont malades. L'espérance de vie en bonne santé recule en France. Le cancer, c'est une personne sur deux. Donc, les gains de productivité sont devenus des pertes de santé, des pertes d'environnement. Le climat est en capitalonnade. L'eau devient de plus en plus polluée, de plus en plus rare. est de plus en plus précieuse avec la sécheresse à répétition. Donc, on va vers un effondrement. C'est déjà le cas pour le sable. On n'a plus de sable. On a bientôt plus d'étain. Dans 8 ans, il n'y a plus d'étain. Donc, sans parler des hérissons et de toute la biodiversité et des abeilles. Donc, l'agriculture, c'est pareil. On avait, en gros, 1 900 000 emplois en 1980, il y a seulement 40 ans. Il n'y a plus que 600 000 emplois dans l'agriculture. Même pas 500 000 emplois en 2020. Vous rendez compte ? On en a perdu,4 fois 5, 20, ouais, presque 300%, 350%. Hallucinant. Tout ça pour manger quoi ? Des trucs pleins de pesticides. Donc, il nous faut une autre industrie, sobre, pour faire des petites, par exemple, systèmes de désherbage légers à traction animale. Bien sûr qu'il faudra fabriquer des petites motrices, peut-être électriques, pour transporter des passagers, qui soient des autorails pour 200 personnes ou 150 personnes. Bien sûr qu'il faudra des produits durables, réparables, réutilisables et mettant peu de CO2 dans cette fabrication. Voilà. Mais actuellement, qui est-ce qui bouffe du CO2 ? Les 10% les plus riches en France, 10% c'est 7 millions des plus riches. Ils ont plus de 10 000 par mois, en gros, 8 000, 10 000. Ça fait énormément de monde. La France est un pays extrêmement riche, côté les riches, puisque c'est le pays du monde où il y a le plus de millionnaires. 3 millions 200 000 millionnaires en France. c'est-à-dire 5% quasiment de la population, hein, 4%, enfin, on est 67 millions et demi. C'est un pays pourri de millionnaires, c'est un pays pourri de fric. Pour une raison très simple, si on regarde l'histoire de la France, c'est l'histoire du pillage colonial. Hein. On a fait des ronds avec les esclaves africains, revendus aux États-Unis dans les champs de coton. On a fait du pognon avec le caoutchouc du Vietnam, avec la cacahuète, avec le charbon, avec le gaz d'Algérie. On a fait du pognon de tous les côtés et on s'est gavé. Enfin, pardon, se sont gavés ceux qui possédaient les moyens de production et d'échange. Pas le peuple. Le peuple, lui, il est resté à l'écart et maintenant on a 15 millions de personnes à moins de 1100 euros par mois. C'est-à-dire on a 10 millions de pauvres en dessous du seuil de pauvreté en France. Alors oui, d'accord, on va leur donner 40 millions de masques lavables et ragnagna. Non, à eux, il faut que ce soit la gratuité. Et à eux, il faut qu'il y ait du boulot. Et pour avoir du boulot, le plus simple, ça sera peut-être de reprendre une lutte contre les inégalités. Si vous mettez un revenu maximum à 20 000 euros, ben vous avez du pognon et vous avez de quoi relancer une activité qui permet à des tas de gens d'avoir un emploi digne, de qualité. Par exemple, dans la production en permaculture. On sait bien que même sur 1 ou 2 hectares, on peut faire avec des bonnes serres et de la bonne permaculture, éventuellement sur un peu plus d'hectares, en coopérative de préférence à 3 ou 4, ou en famille, agriculture paysanne, on peut très bien produire énormément de légumes, de fruits, de qualité. À ce moment-là, ils seront un peu plus chers, mais comme on aura redonné de l'emploi et sans doute remonté le SMIC, on aura du pouvoir d'achat pour mettre une part plus importante dans l'achat alimentaire. Mais surtout, ce que nous proposons, nous, c'est de faire des régies publiques alimentaires municipales, nous, la CEN, hein, c'est de faire des régies publiques municipales, depuis 12 ans on propose cela, comme il y a Monsartou ou ailleurs, c'est-à-dire que les communes, ah ben, ici en Chartreuse, merveilleux, puisque vous avez eu mon interview avec Madame Bienassi, c'est de bloquer tout gaspillage des terres agricoles à 1 euro en présente. 1 euro le mètre carré, elle est terminée, les communes préemptent. Mais on peut aller plus loin. Les communes peuvent bien acheter des dizaines d'hectares. Au lieu de filer 12 hectares à des bobos pour soi-disant faire une maison autonome pour 2 personnes, vous vous rendez compte, 67 millions d'habitants en France, 40 millions de ménages, si tout le monde voulait 12 hectares, même le Mont-Blanc suffirait pas. Hein, déjà que les lotissements et l'extension urbaine ont ravagé pratiquement plus de 10% de nos terres agricoles, on aura bientôt plus de quoi bouffer. Eh bien, que nos communes reprennent le pouvoir et que, puisque les élections sont passées, hein, on est là où on est. Hein, il n'y a pas eu un grand succès des listes participatives. Et s'il y a eu un succès à Chambéry, c'est pour remettre en selle le Parti Socialiste. Je trouve que ça craint. Eh bien, pourquoi ne pas faire des contre-pouvoirs partout pour dire, vous achetez la terre agricole, vous bloquez toute vente des terres agricoles à des bobos ou à des industries ou à des gros agriculteurs pour faire du maïs, hein, 750 litres d'eau pour faire un maïs, un kilo de maïs, ou c'est la catastrophe tout ça pour nourrir 1 milliard d'animaux en France. Non, mais c'est de la folie furieuse. Par contre, vous prenez des dizaines d'hectares et on réinstalle une agriculture vivrière comme il y avait avant, pas forcément avec les mêmes techniques, d'une façon plus moderne, mais quand même avec des bonnes serres, il est possible de nourrir de nouveau nos campagnes. Ça créera 1 million ou 1,5 million d'emplois. Si vous faites la rénovation énergétique de 7 millions de logements passoires, mais forcément que vous allez aller vers 400-500 000 emplois, rien que pour les plâtriers, les etc. Si vous allez vers une production énergétique avec la biomasse, de faire du gaz de bois, de faire de l'alcool de bois, de faire du biogaz méthane, mais bien contrôlé, c'est-à-dire pas ces grosses usines qui en Allemagne où on met du maïs, on cultive du maïs pour faire du gaz qu'on revend parce qu'il est acheté beaucoup plus cher que chez nous. Non, qu'on fasse des petits biométhaniseurs de qualité. Il y a 6 usines en France qui les fabriquent sans fuite de méthane. Et on met que du bio dedans, donc à la sortie, on doit pouvoir utiliser ce Lixivia combiné à d'autres techniques, hein, comme les engrais verts, comme les fumiers épandus, pour la fertilité des sols. C'est pas vrai que les méthaniseurs, c'est une catastrophe. Qui diffuse ce genre de choses? Et évidemment, ça prend le carbone. Et ensuite, vous n'avez pas l'engrais idéal, mais vous pouvez, avec un méthaniseur ne consommant que des pailles, que des fumiers bio ou que des déchets agricoles bio, vous pouvez arriver, ou des brisures de bois bio, de bois naturel, quoi. Bon, bref, ben, je dis bio parce que si vous prenez du noyer de la vallée de la Drôme, il est imbibé de pesticides maintenant, le bois. Si vous prenez que du bio à l'entrée, vous avez à la sortie, combiné avec d'autres, une possibilité d'étendre sur les sols, de quoi les enrichir, de quoi les amender. Bon, produire un peu de biogaz, c'est intéressant parce que ça produit du gaz pour la cuisine locale, ça produit de l'électricité pour l'électricité locale, et ça produit, combiné à autre chose, de l'engrais. Voilà. Eh bien, si on veut une politique de récupération de chute d'eau, hein, comme Voiron l'a fait, si on veut une politique de développement de méthaniseurs municipaux, un peu de photovoltaïque, mais pas du chinois avec acétate de vinyle, hein, il faut de l'allemand et du français, voilà, pour assurer un minimum pour recharger, ça produit pas grand chose, hein. Peut-être quelques petites éoliennes, attention, hein, pas des éoliennes géantes et pas propriété des grands groupes industriels, hein, les éoliennes. Mais on peut effectivement, dans une commune, acheter 10-12 éoliennes petites ou moyennes, et ça permet de tourner la nuit pendant que le photovoltaïque marche pas, combiné avec quelques méthaniseurs, quelques chutes d'eau, on assure le minimum électrique. Évidemment, on interdit les clims et on ne réchauffe pas les grandes surfaces et on n'alimente pas les grandes industries avec ça, hein. On vit une vie simple, mais on a au moins de quoi regarder ses mails, puisqu'on en est là. On a au moins de quoi s'éclairer et puis à minima de faire tourner une machine. Donc du 3 à 6 kilowatts, pas plus. Et ça suffira pour bien vivre. Surtout qu'on fera des fêtes et de la culture. Voilà, une autre façon de vivre et de produire est possible. Par exemple, à Lépin, plutôt que de faire 88 nouvelles maisons, on peut très bien construire des petits immeubles de paille, bois, terre, banchage, hein, extérieur en bois, et entre le bois et la paille, un petit banchage de terre, donc paille, bois, terre, eau. On peut faire des petits immeubles 3-4 étages avec des jardins dans le centre, près de la gare. Il s'est fait un immeuble de 7 étages, 120 euros de charge pour un F4 de chauffage. Ils sont totalement isolés, bioclimatiques ces immeubles, ça dépensera rien. Pourquoi on ne construit pas comme ça? Moi je serais pour raser des lotissements, carrément, et d'offrir des petits immeubles avec des jardins au pied de ces immeubles, une vie sociale bien plus agréable dans un... qu'on densifie dans les centres-villes et qu'on laisse la terre agricole respirer et être utile pour la nourriture des habitants locaux, puisque 6 aliments sur 10 en France est importé. Hallucinant, sauf un peu la viande, puisqu'on a 1 milliard d'animaux avec toute l'industrie de la viande et de la bidoche qui est une horreur. Je vous fais pas un dessin. Moi-même, je mange plus que quoi, 1 ou 2 steaks par mois à tout casser, et basta. Voilà, on devrait pouvoir arriver à vivre bien, en tout cas à préparer, comme disait le petit bouquin, de ne pas trop chuter, ou de retarder la fin du monde, ou de ne pas perdre le monde, ou de ne pas perdre la terre, ou de moins la perdre, pour que tout le monde ait quelque chose, et ça passe par la réduction des inégalités sociales. Et j'avais pas fini de vous lire tout à l'heure, hein. Mais quel est ce pays où il y a 10 élèves par enseignant, 200 millions d'enfants qui dorment dans la rue dans le monde, et aucun enfant dans ce pays, aucun ne dort dans la rue, et dont 54% du budget de l'État est affecté aux services sociaux, qui a le meilleur système d'éducation de toute l'Amérique latine, la plus grande contribution au PIB pour l'éducation, un des taux de développement humain le plus élevé, hein, parce qu'il y a le PIB, produit intérieur brut mesuré, mais il y a aussi l'IDH, indicateur de développement humain, et puis il y a aussi l'indicateur du bonheur. Eh bien, c'est le pays avec le Bhoutan qui a le plus haut, voilà. Et il y a le plus bas taux de criminalité des Amériques. et c'est le premier pays à éradiquer la poliomyélite. Tout ça avec un embargo de plus de 50 ans des USA. Tout ça aussi avec la persécution des homosexuels. Bon, ça s'est calmé. C'est vrai avec un parti unique. C'est vrai avec la prédominance de l'État. C'est vrai avec l'internement de certains opposants. C'est vrai qu'on a laissé partir quelques centaines de milliers d'opposants en Floride, d'ailleurs, qui commencent à le regretter parce que c'est là où il y a le plus de, il y a le plus de violence. Eh bien, ce bilan qu'on a, cette fois-ci, on peut dire globalement positif. Ce qu'on ne pouvait pas dire pour la Russie soviétique, c'est Cuba. Donc, vous voyez, le pays qui est 20 fois plus pauvre que nous a pu faire tout ça en ayant des côtes exemplaires sur le plan écologique. Un pays où on mange bio à 80%, où l'espérance de vie est supérieure à celle des Américains, en ayant un PIB par habitant 20 fois inférieur. Vous voyez qu'il est quand même possible de vivre une vie qui nous garantisse une fin du monde certainement moins catastrophique qu'annoncée par un certain nombre de collapsologues, à condition de prendre le pouvoir local, de prendre le pouvoir national, de se battre au niveau international comme les jeunes d'Action Climat contre tout ce qui est énergie fossile du capital. Voilà, on peut certainement trouver des solutions. Par exemple, ces immeubles en paille bois terre haut, ils peuvent très bien avoir des petits chauffe-eau solaires sur le toit, quelques cellules photovoltaïques sur le toit. Il peut y avoir des jardins, je vous l'ai dit. Il est vrai qu'au niveau des déchets, on peut faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul type de bouteille, en verre, tout, pour le lait, le pinard, le yaourt, etc. Oui, vous voyez que tout ça, comme le disait si bien Einstein, dépend du fait que nous laissons faire. Que la citoyenneté est la question décisive dans l'avant-pays savoyard et en Chartreuse, que la jeunesse cherche parfois trop de solutions à titre individuel. Les vieux, eux, se sont casés dans leur maison à force de crédit. Et la société n'existe quasiment plus que sous la forme de cette espèce de d'égoïsme du chacun pour soi, quoi. C'est pourquoi je recommande la lecture de Cornelius Castoriadis, hein, « La culture de l'égoïsme ». Il montre que bon, le système capitaliste dans son ensemble a tendance à privatiser l'individu. Un individu, c'est l'ensemble de ses rapports sociaux. On est d'autant plus riche qu'on a le plus de relations, et pas sur Facebook naturellement, hein, où à 200 amis, il y en a un qui est un ami. 200 rigolos, mais pas de véritables amis, c'est pas vrai sur le numérique. Donc, ce qu'il dit, c'est que, comme le disait d'autres gens comme Gramsci, Marx, etc., Bourdieu, c'est que l'homme est l'ensemble de ses rapports sociaux. Notre psychologie est faite de l'ensemble de nos relations sociales, elle est faite de l'ensemble de ce que nous faisons de bien dans le monde, elle est faite de l'ensemble des cultures que nous a apprises de nos parents, de notre classe, etc., et elle est faite de ce que nous faisons pour nous améliorer. Alors qu'on se serve ou pas de la religion, qu'on se serve ou pas de la méditation, qu'on se serve ou pas des formes de spiritualité qui circulent à tour de bras, l'essentiel est de s'améliorer, d'être moins égoïste et beaucoup plus dans la convivialité, mais surtout dans l'action. Qu'on cesse de chercher sans arrêt à se tirer des flûtes ou à penser qu'on va s'en sortir en trouvant son petit coin de cabane avec un petit carré de terrain et puis qu'on va, avec un jardin, sauver le monde. On va faire du bien sur ce carré de terrain, on va faire du bien si on échange nos tomates, mais c'est pas avec ça qu'on va arrêter la catastrophe ou du moins la rendre vivable, au moins que le monde ne soit pas ravagé et que les plus pauvres ne soient pas balayés. Why hesitate? Why? Well, a nickel is a nickel and a dime is a dime. I need a new girl and I know she won't mind. I say, how long have I got to wait? Must I hesitate? Well, the eagle and the dollar said, in God we trust. But once you're on the streets, they want to see the dollar first. I say, how long have I got to wait? Well, can I get you now? Why must I hesitate?
hesitate. Well, if the river was made of whiskey and I wasn't dark, I'd swim right to the bottom
and Lord, never come up a sip.
How long? Must hesitate.
Donc, en clair, vous voyez bien qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on n'échappera pas au danger de la cuisine et de la tarte aux cerises. Voilà, pour obtenir la pâte hein, de la tarte aux cerises qu'on achète partout, parce qu'on sera bien obligé d'en acheter, tout le monde n'aura pas des cerisiers, tout le monde n'aura pas, fera pas son grain de blé, son blé, tout le monde n'aura pas son moulin, etc. L'idée de la maison autonome est complètement absurde. Pendant, c'est de la Robinsonade, l'homme et l'ensemble, ses rapports sociaux. Sans la sécurité sociale, personne n'existe dans ce pays. Sans la santé, sans les hôpitaux, sans tout ce qui est collectif, vous êtes conduit à mourir assez vite. Voilà, alors maintenant, si on veut faire une tarte aux cerises, on saura que le blé a reçu 2 à 6 traitements de pesticides selon les années. Puis un traitement aux hormones pour raccourcir les tiges afin d'éviter l'averse, hein, quand il y a un orage. Et puis une dose importante d'engrais, 200 kg d'azote, 100 kg de phosphore et 100 kg de potassium à l'hectare, hein, rien que ça. Puis le blé, il est moissonné dans le silo. Après récolte, les grains sont fumigés au tétrachlorure de carbone et au bisulfite de carbone, puis arrosés au chloropyriphosphométhyle, voilà, pour pas qu'ils moisissent, parce que comme on fait tout en grand, l'industrialisme, faut pas que ça pourrisse, parce que ça ferait pas de pognon pour les actionnaires ou pour les gros paysans. Pour la mouture, la farine reçoit du chlorure de nitrosyle, puis de l'acide ascorbique, de la farine de sève, du gluten et de l'amylase. Plus il y a de gluten, plus c'est facile à panifier de façon mécanique, dans d'immenses pétrins, avec des machines qui font automatiquement l'enfournement et le défournement dans des fours gigantesques où on peut faire 2000 pains à la seconde. C'est de la folie furieuse. Ensuite, il faut faire lever la pâte. La poudre levante est traitée au silicate de calcium et l'amidon est blanchi au permanganate de potassium. Vous mettez du permanganate de potassium sur votre peau, je connais bien, ben votre peau elle est brûlée. Pas de pâte sans corps gras. Ceux-ci reçoivent un antioxydant pour éviter que ça rancisse, comme l'hydroxytoluène, 2-butyl, et un émulsifiant de type lécithine. Bon, voilà, ça c'est juste la pâte hein, pour la crème.
Ben, c'est des œufs, du lait et même de l'huile. Hein. Bon, les œufs, c'est un élevage industriel de 600 000 poulets. Hein, 600 000 poules. Elles sont nourries avec des granulés contenant antioxydants E300 et E311, des arômes, des émulsifiants, l'arginate de calcium, des conservateurs, l'acide formique, des colorants, le capsantéine et l'agent liant, c'est le lignosulfate. Et enfin, des appétants pour qu'elles aient envie de le croquer, du glutamate de sodium. Voilà. Le lait provient d'un élevage industriel hein, où les vaches reçoivent une alimentation en produits chimiques, antibiotiques, flavophospholipol, hein, le fameux F112 ou 712 ou mono alors là j'arrive pas à relire monoenzyme sodium, alors je connais pas F117, des antioxydants, du butyl hydrotoluène, hein, de l'étoxiquinine, etc. De l'acide propionique, du F280 et ses dérivés, F280. Ce sont des composés azotés chimiques, de l'urée, du diérido-isobutane, des agents liants, du stérate. Voilà. Et enfin, pour des appétants pour que les vaches puissent manger tout ça, comme le glutamate de sodium. Est-ce qu'on oublie là sur cette histoire publiée par Monique Robin, c'est que les vaches mangent pour l'essentiel de. des tourteaux de soja hein, dont on a pressé les huiles hein, en Amérique latine et qui ont servi à déforestation, mais surtout que c'est des soja OGM. Et l'OGM, justement, il est fait pour que la plante résiste au Roundup. Donc c'est plein de Roundup, votre crème. Les œufs, le lait, l'huile, quant à elle, est extraite par des solvants comme l'acétone. Hein, vous voyez de l'acétone ce que c'est, hein, pour effacer des grosses taches. C'est cancérogène, hein. Puis de l'acide sulfurique, puis lavage à chaud, neutralisé à la lessive de soude, décoloré au bioxyde de chlore, voyez à peu près. Bon, les cerises, ils ont reçu pendant la saison, ça varie entre 10 et 40 traitements. Ils sont décolorés à l'anhydride sulfureux, hein, les cerises sont décolorées. Elles sont plongées dans une saumure contenant du sulfate d'aluminium. Elles sont enduites d'un sucre qui provient de betteraves qui, comme les blés, ont reçu une bonne dose d'engrais de pesticides. Voilà ce que vous mangez en pensant être autonome. On n'est pas autonome, on est pris dans ce merdier. Et donc, il s'agit de vraiment refaire du sain, du propre, du local. Voilà, et pour l'utilisation de l'eau, on peut faire des écréteurs de crue, des toutes petites digues. C'est multifonctionnel. On étanchéise avec de l'argile bétonite. L'été, ça sert de retenue anti-incendie. L'important, parce qu'il va y avoir des grands incendies géants en Chartreuse, forcément, avec tout ça. À saturation, c'est-à-dire 36 grammes d'eau à 20 degrés, c'est de la pluie. Et ça ramène une hygrométrie. Et donc, le pic de sécheresse diminue. Une forêt humide brûle moins ou pas du tout. En aidant la biomasse à avoir une rosée matinale, on prévient les incendies. Donc on fait plein de petites digues de 2-3 mètres de haut. On ne fait pas des lacs collinaires, hein, des petites digues. On peut installer aussi des petites turbines électriques en série sur les écréteurs de crue. Voilà, on y revient à l'idée d'autonomie électrique. Hein. Par exemple, le potentiel est estimé à 1000 MW et par système beaucoup plus. Voilà, les contacts, l'abreuvage, la faune et petites cascades en forêt pour les baignades dynamiseraient aussi ce versant et ce ressourcement dans cette écologie sociale. Voilà. Il faut se battre contre les éoliennes géantes, évidemment. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour terminer cette chronique sur comment on peut avoir une autre société, c'est à notre portée. Il faut que la puissance publique reprenne, soit au niveau de l'État, les grandes entreprises, les banques, etc., soit au niveau local, des régies publiques alimentaires, des régies publiques électriques, des maisons du soin, des cafés associatifs, etc., de plus en plus de coopératives, et qu'on protège tout ce qui est le bien commun. Et dans les communes, ça s'appelle les communaux, c'est des terres, c'est des bois, c'est des vieux vergers, c'est des mares, etc. Tout ça doit devenir une propriété du peuple entier, n'appartenir à personne et être garanti 99 ans contre toute emprise du privé. C'est cette lutte-là qu'il nous faut mener si nous voulons survivre. Et voilà, c'est juste une expérience d'une personne qui a un petit peu d'expérience, qui vous dit ça, sans se fâcher, hein, des fois je suis un peu véhément et je m'en excuse, hein, mais quand je vois qu'il y a 40 milliards de tonnes de CO2 oubliées dans le permafrost avec des tas de virus qui peuvent se répandre, eh ben je me dis qu'on a intérêt à être en bonne santé, et la bonne santé, c'est d'avoir un système d'immunodéfense, un système immunologique en bonne santé. C'est quoi un système immunologique? Ben c'est quand un gamin court dans les bois, c'est quand les gamins ils font du sport, c'est quand les gamins mangent des fruits rouges, du bio, du propre, du bon. Voilà. Mais pas la tarte aux cerises. Je vous remercie. Je pense qu'on fera une petite rencontre de nos auditeurs et amis et sympathisants, notamment de mon association, pour contribuer, elle, à la mise sur pied d'un mouvement citoyen dans l'ensemble de Chartreuse et avant-pays savoyard pour qu'on ait une sorte de contre-pouvoir, bon c'est sûr, des années et tout ça, non lié aux partis politiques, non lié aux syndicats, non lié aux financeurs privés, mais émanant du peuple, des milieux populaires, de tous ceux qui veulent se bouger pour que les choses aillent mieux pour nous-mêmes et nos enfants. Eh bien, je vous remercie. C'est le plus simple, c'est de nous téléphoner par SMS au 06 75 80 05 79. 06 75 80 05 119. Je vous redonnerai la date de cette réunion. Nous visiterons un jardin pour les choses. Je vais recevoir prochainement les penseurs de terre pour la deuxième fois, un maraîcher qui fait que de la vieille variété et qui est du côté du Grésivaudan justement. Je vais recevoir aussi la compagnie des petits détournements, ainsi, enfin, ça fait un moment que je voulais les avoir, que l'alternateur, voilà, ça sera pour la semaine prochaine, ainsi aussi d'ailleurs que l'insolente de Chambéry, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, on m'a donné de faux numéros et il n'y a rien qui a fonctionné, c'était pour aujourd'hui, et ben ce sera pour dans 15 jours ou 3 semaines. Allez, portez-vous bien, prenez soin des autres et de vous, et surtout de la terre, de la nature, de la planète et de la société humaine.
C'était La Saine Cause pour un bien commun et un monde vivable.